l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Depuis 2 millions d'années, ils se racontent des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
L'aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Le 7 mars 2012, l'énergie, le concept des concepts. Omniprésent dans les débats de société et les médias, le terme d'énergie est tout autant usité dans le langage courant qu'il ne l'est dans des domaines aussi divers que les sciences, l'économie, les arts et les lettres. Paradoxalement, l'énergie reste difficile à définir et les acceptions du terme semblent aussi nombreuses que les domaines d'usage sont variés. Mais alors, qu'est-ce que l'énergie ? Muriel Guetsch, maître de conférences en histoire des sciences de l'Université de Montpellier II, répondra à cette question dans ce nouveau numéro de l'Agora des Savoirs.
Alors, le cycle qui débute dans cette saison de l'Agora des Savoirs a pour intitulé « Les sciences incertaines et les savoirs flous ». Et il m'a semblé que le thème de ce second cycle de l'Agora est particulièrement bien adapté à la question de l'énergie que je vais aborder en deux temps. Donc, dans une première étape, je m'intéresserai d'abord à la construction du concept en tant que tel. Il s'agit d'élucider ce concept en donnant les principales propriétés du concept d'énergie. Et puis, de voir quel est le statut acquis par le concept, ça me semble quelque chose d'important, et sans occulter les difficultés qui lui sont associées. Disons que cette première partie, si vous voulez, en quelque sorte, c'est l'aide à Saint-Augustin, en quelque sorte. Alors, dans la seconde partie, peut-être un peu moins classique, on va dire, je vais essayer de montrer, avec une variété d'usages qui sont associés à l'énergie, afin d'interroger le concept lorsqu'il est mobilisé hors de son domaine d'émergence, le domaine d'émergence étant la physique. Alors dans le domaine nouveau, vous allez voir les choix que j'ai faits, mais qui font toujours référence aux sciences, c'est-à-dire qu'on va mobiliser le concept d'énergie dans des ailleurs, mais avec toujours la volonté de se référer à l'émergence du concept d'énergie dans le domaine des sciences. Alors les questions qui se poseront alors seront les suivantes. Comment et à quelle fin l'énergie est-elle mobilisée ? L'énergie, quand elle est mobilisée dans un autre domaine que celui des sciences, est-elle concept ou est-elle métaphore ? N'ayez pas peur, je présenterai des choses très simples sur ces études de cas. Donc je vais vous proposer trois études de cas, donc trois illustrations, qui permettront d'aborder cette question. La première de ces illustrations touche à des questions sociales. La seconde est en prise avec l'économie, c'est-à-dire comment à un moment donné on peut mobiliser l'énergie dans le domaine de l'économie. Alors que la troisième, et c'est peut-être ça l'endroit où on ne pense pas trouver l'énergie, mais j'essaierai de vous montrer que ce n'est pas le cas, c'est le domaine des arts. C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné, et c'est une question tout à fait d'actualité à Montpellier en ce moment, mobiliser l'énergie dans le domaine des arts. Alors évidemment, ces études ne seront absolument pas exhaustives. Elles n'ont pas prétention à permettre une généralisation. Elles constituent en revanche une sorte de sondage, si vous voulez, dont j'espère qu'il sera porteur de sens. Alors, je reprends un peu ce que disait François tout à l'heure dans son introduction. Pour dire de l'énergie que c'est un concept absolument omniprésent, c'est une trivialité. Pas un jour sans que l'on entende dans la langue courante « je n'ai pas du tout d'énergie en ce moment » Ou bien l'énergie, c'est ma facture électrique, c'est l'essence que je dois mettre dans le réservoir de ma voiture, c'est également tel aliment qui donne de l'énergie, telle médecine qualifiée d'énergétique et qui, au passage, permet la vente de livres à des milliers d'exemplaires dans les médias, qui relaie les débats de société. L'énergie est abordée sous l'angle des politiques énergétiques qui traitent les questions de choix et de gestion d'énergie et les conséquences qui en découlent, en particulier les conséquences environnementales. De fait, dans des domaines d'usage qui sont très variés, c'est un terme polysémique au risque d'une cacophonie sémantique. Et pourtant, on l'a oublié, l'énergie est un concept qui appartient au glossaire de la physique, domaine dans lequel il s'est construit. Mais finalement, de quoi parle-t-on ? Essayons d'y voir clair, et une première chose que nous pourrions faire, eh bien, c'est de tenter une définition. Interrogeons Richard Feynman. Éminent physicien théoricien, prix Nobel de physique en 1965, il a fait beaucoup pour clarifier les développements absolument spectaculaires de la physique d'après-guerre. Et voilà la proposition de définition de l'énergie que fait Feynman. Alors excusez-moi, je l'ai mis en anglais, je n'ai pas osé une traduction, mais je vais vous lire la traduction comme proposition. Alors écoutez bien, c'est très important pour la suite. Il y a un fait, ou si vous préférez, une loi qui gouverne tous les phénomènes naturels qu'on connaît jusqu'à présent. Il n'y a pas d'exception à cette loi. Elle est exacte autant que l'on sache. Cette loi est appelée loi de conservation de l'énergie. Elle dit qu'il y a une certaine quantité que l'on appelle énergie qui ne change pas, quels que soient les événements naturels mis en jeu. C'est une idée très abstraite, parce que c'est un principe mathématique. Il dit qu'il y a une quantité numérique qui ne change pas quand quelque chose arrive. Ce n'est pas la description d'un mécanisme ou quelque chose de concret, c'est juste un fait étrange que l'on puisse calculer un nombre. Et quand on a fini de regarder la nature agir et que l'on calcule à nouveau ce nombre, il est le même. Donc il y a bien l'idée de quelque chose qui se conserve, et ce quelque chose qui se conserve, eh bien, c'est quelque chose, c'est une quantité mathématique. On avance un petit peu. Alors, dans un petit livre, celui-ci en français, hein, la traduction est « La nature de la physique », Feynman interroge la nature du savoir qu'élaborent les sciences physiques. Il indique que lorsqu'on étudie la physique, on est confronté à un grand nombre de lois assez compliquées, détaillées, et finalement qu'à travers la variété de ces lois, existent des grands principes généraux auxquels toutes les lois paraissent obéir. Ce sont par exemple des qualités de symétrie, le fait que l'ensemble de ces lois sont mathématiques, et bien sûr les grands principes. Dans les grands principes, il y a la conservation de la charge électrique par exemple, et bien sûr le principe de conservation de l'énergie. Et il va donner une illustration dont il dit lui-même, Feynman, qu'elle constitue une analogie un peu simpliste, moi j'aurais tendance à dire qu'elle est quand même heuristique, du principe de conservation de l'énergie. Je vous livre son illustration. Voilà un enfant en train de jouer avec des cubes. Jusque-là, tout va bien. Il dispose de 28 cubes. À la fin de la journée, cet enfant a toujours ses 28 cubes. Et cela va se reproduire plusieurs jours de façon consécutive. Un soir, lorsque sa mère rentre, elle trouve qu'il n'y a plus que 27 cubes, alors qu'elle était absolument persuadée qu'il y en avait initialement 28. Et la mère trouve un cube dehors de la maison, au pied de la fenêtre. Donc Feynman nous indique, eh bien, que pour vérifier une loi de conservation, il faut faire attention à ce que rien ne passe de l'autre côté du mur, si on peut dire. Ou bien au contraire, à ce qu'il n'y ait pas un apport de l'extérieur. On aurait pu tout à fait imaginer qu'un autre enfant vienne jouer avec le premier et amène lui-même ses propres cubes. Vous voyez, là, ça ne marche plus. tout va bien jusque-là. Un soir, la mère, qui ne compte plus que 25 cubes, soupçonne l'enfant d'en avoir caché 3 dans une boîte. Elle souhaiterait bien ouvrir la boîte pour vérifier cela directement. « Non, lui dit l'enfant, tu ne dois pas ouvrir la boîte. » En mère intelligente, elle lui dit, elle est peut-être mathématicienne cette maman, je ne sais pas. Elle lui dit, je sais que la boîte vide pèse 600 grammes et que chaque cube pèse 100 grammes. Eh bien, c'est facile, je vais peser la boîte. Ainsi, en faisant le total du nombre de cubes, eh bien, elle obtient ses 28 cubes. Le nombre de cubes visibles, plus le poids de la boîte, moins les 600 grammes sur 100 grammes, on en reste là, bah ça nous donne nos 28 cubes. Tout va bien, le compte est bon. Les jours s'écoulent, avec ce principe, on arrive toujours à trouver les 28 cubes. Un jour cependant, ça tombe pas juste. La mère remarque que l'eau dans un récipient, initialement à 6 cm, a changé de niveau, alors que chaque cube introduit élève le niveau de 0,5 cm. Elle est très maligne, très observatrice quand même. Alors elle ajoute un terme. Alors le terme rajouté, vous voyez, c'est celui qui est hauteur de l'eau moins 6 cm sur 0,5 m. Eh bien, le nombre de cubes plus le poids de la boîte plus l'autre partie de cet ensemble, eh bien, ça donne 28 cubes. Voilà. À mesure que l'ingéniosité de l'enfant et celle de la mère se développent, des termes sont ajoutés. Ce sont des calculs abstraits, puisque les cubes sont invisibles. Les cubes dans la boîte, ou bien les cubes dans l'eau. Pour l'énergie, finalement, c'est un peu la même chose. Ni objet, ni substance, François a insisté là-dessus tout à l'heure, elle est invisible comme les cubes cachés. Et on a découvert une procédure avec une série de règles permettant de calculer un nombre pour chaque type d'énergie. Cette énergie a toutes sortes de formes, analogues au cube dans la boîte ou bien au cube dans l'eau. Il y a une énergie qui est due au mouvement, c'est l'énergie cinétique, due à l'interaction gravitationnelle, l'énergie thermique, électrique, chimique, électromagnétique, etc., etc. On sait que l'énergie peut revêtir des formes différentes, on vient de le voir. On est certain, avec la définition de Feynman, qu'au final, c'est-à-dire prenant en compte toutes les formes de l'énergie, elle se conserve. Mais il faut bien dire que c'est encore un peu vague, et je vois bien que vous n'êtes pas convaincus. Alors, pour élucider le concept d'énergie, mieux connaître ses propriétés et son statut, eh bien, je vous propose un bref détour par l'histoire des sciences. Bon, plus exactement, l'histoire de la physique, il faut bien dire que c'est là où le concept d'énergie va vraiment se construire. On ne peut pas faire l'économie quand on parle de l'énergie d'un auteur tout à fait important, Sadi Carnot, qui va publier en 1824, souvenez-vous de cette date, j'y reviendrai tout à l'heure, un petit ouvrage très fameux qui s'appelle « Sur la puissance motrice du feu ». Et les machines propres à développer cette puissance. Sadi Carnot, dont vous voyez là une gravure, une peinture, est considéré comme le père fondateur de la thermodynamique, alors que ses travaux finalement sont méconnus dans le contexte de son époque et qu'ils seront redécouverts plus tard par un physicien tout aussi fameux qui s'appelle William Thomson et dont je reparlerai tout à l'heure. William Thomson, c'est le futur Lord Kelvin. J'aurais un peu tendance à dire Thomson et Kelvin en mélangeant les deux, mais c'est absolument la même personne. Donc Carnot travaille à partir des machines à vapeur. C'est la période, donc 1824, vous voyez, on est au début du 19e siècle. Il imagine une machine théorique qui généralise toutes les autres. Il explique le fonctionnement d'une machine pour laquelle l'expansion de la chaleur est utilisée pour donner du travail mécanique dans un circuit fermé. C'est le principe de la machine. C'est-à-dire que ce que vous voyez là sur le... Alors, je cherche... Voilà. Vous avez là la machine. Et ce que nous indique Carnot, c'est que si on veut obtenir... Alors, ce qu'il appelle, lui, la puissance motrice, on va dire travail, si vous voulez, on va obtenir un effet... Alors il est nécessaire qu'une quantité de chaleur, que de la chaleur, s'écoule d'un corps chaud, la source chaude, à une source froide. Voilà ce que nous apprend Carnot. L'écoulement de cette chaleur, de la source froide à la source chaude, est la condition indispensable pour l'obtention d'un effet. Ce que je dois ajouter, et ce qui va encore poser pas mal de problèmes, c'est cette idée de chaleur. Alors, on ne va pas discuter ici de l'histoire de la physique ou des problématiques rencontrées dans ce domaine, en tout cas plutôt de la chimie, mais la question de la chaleur aura été un obstacle à beaucoup de compréhension, tant dans le domaine de la chimie que de la physique. C'est-à-dire, on s'est longtemps interrogé sur qu'est-ce qu'est le feu, qu'est-ce que c'est que la chaleur. Et dans le contexte de Carnot, la chaleur, pour lui, ça reste un fluide, c'est-à-dire une substance qui peut passer d'un corps chaud à un corps froid. C'est ce qu'on appelle le calorique. C'est-à-dire que le calorique, c'est une théorie que l'on doit à la notoriété de Lavoisier, qui va perdurer encore quelques années après les travaux de Carnot. Donc comprenez bien, et j'insiste un peu là-dessus parce que finalement, j'ai un peu tendance à croire qu'il y a une confusion, en tout cas c'est le cas chez nos étudiants par exemple, il y a une confusion assez nette entre le fait de penser l'énergie comme une substance et une énergie qui se conserve, de la même façon que Carnot pensait la chaleur, donc le calorique, comme une substance qui se conserve. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là-dessus, cet élément-là me semble vraiment important. Donc Carnot, avec son calorique, à la manière de Lavoisier, donc tout à fait intégré dans le contexte de l'époque, va penser que l'obtention, la condition nécessaire à l'obtention d'un travail, bien réside dans la chute de ce calorique entre deux températures différentes. Si je n'ai pas deux températures différentes, alors il est absolument impossible d'obtenir un effet, d'obtenir du travail. Et le calorique se conserve dans ce dispositif-là. Alors, ce que Carnot ne sait pas, mais ce n'est pas très gênant finalement pour expliquer le fonctionnement de sa machine, et que William Thomson va apprendre lui. William Thomson, c'est un physicien écossais. Il se passe beaucoup de choses dans les laboratoires écossais au XIXe siècle. Donc, William Thomson va apprendre d'un autre physicien écossais, Joule, c'est que, en fait, la chaleur est une forme de mouvement et qu'il est possible de transformer de la chaleur en mouvement de la même façon qu'il est possible de transformer du mouvement en chaleur. Joule va mener de façon expérimentale tout un tas de travaux qui vont lui permettre d'arriver à ce résultat qui vous semble peut-être absolument trivial mais qui ne l'était absolument pas dans le contexte de l'époque. D'un côté, on traitait la mécanique, le travail, les actions, etc. Et de l'autre côté, on pensait la chaleur dont on ne savait pas trop de quoi ça retournait. Associer la chaleur au travail, c'est-à-dire associer la chaleur à la dynamique, eh bien, c'était faire entrer la chaleur dans un contexte scientifique pour lequel on avait, par exemple, un formalisme qu'on pouvait associer finalement à l'expression même de chaleur. Donc c'est un pas qui est franchi avec les travaux de Joule, qui va penser l'existence d'un équivalent mécanique de la chaleur. Il y a une transformation du travail en chaleur ou de la chaleur en travail. Alors, vous voyez là sur la diapo, bon, vous voyez Joule sur la partie gauche. J'aime bien ces représentations, ça fait partie de l'iconographie scientifique, c'est toujours intéressant à regarder. Et puis alors, j'ai choisi cette expérience célébrissime de Joule, qui n'est pas la plus importante, mais qui est paradoxalement la plus connue. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le dispositif. Vous avez un récipient qui est rempli d'eau. À l'intérieur de ce récipient, il y a des palettes. Et on peut, en agissant sur la manivelle, on peut faire monter le poids qui se trouve sur la droite. Vous voyez qu'il y a une règle graduée qui permet effectivement de voir à quelle hauteur se trouve ce poids. Donc, il suffit de tourner. Enfin, il suffit. C'est assez compliqué finalement parce que le poids est assez lourd et puis la distance parcourue par ce poids est assez haute. Et quand on a voulu répliquer cette expérience historique, et je sais que ce sont des collègues que je connais bien à l'université d'Oldenbourg qui ont tenté de faire ça, ils ont beaucoup transpiré pour faire cette expérience. Et d'ailleurs, ils ont un peu interrogé les résultats expérimentaux de Joule. Mais bon, c'est peut-être une autre affaire. Toujours est-il qu'en tournant la manivelle, donc vous voyez que ça permet de faire monter le poids tout en haut, et ensuite on lâche l'ensemble, donc le poids descend, c'est-à-dire qu'il travaille, si vous voulez, hein, il va passer d'une hauteur, d'une certaine hauteur à une hauteur beaucoup plus basse. Ça va actionner les palettes à l'intérieur du récipient contenant dans l'eau. On va faire ça plusieurs fois de suite, et c'est pour ça que mes collègues ont beaucoup transpiré, parce qu'il faut aller assez vite si on veut suivre à la lettre finalement ce que Joule préconise. Et on va mesurer la température de l'eau, et on va se rendre compte que du fait des frottements, eh bien, la température de l'eau augmente. Donc, vous voyez l'idée, on peut associer à une hauteur précise mesurée, eh bien, une différence de température. Il existe un équivalent mécanique pour la chaleur. Voilà l'apport vraiment important de ces travaux de Joule. Plus encore, mais ça c'est pas Joule qui va le mettre en évidence, on va se rendre compte d'une part que le travail et la chaleur, eh bien finalement, sont deux manifestations d'une même chose, et que cette même chose, eh bien ça sera l'énergie. Vous voyez que tout à l'heure, quand j'évoquais les travaux de Carnot, je disais ce qui se conserve dans son dispositif à Carnot, c'est le calorique. Hein, le calorique, cette substance qui chute entre deux températures, et bien là, ce qui va se conserver, c'est l'ensemble, un bloc, travail plus chaleur. Hein, ça change un peu la donne. Alors voilà Thomson sur la gauche, et puis donc je vous ai déjà présenté, et puis Clausius, donc un physicien, un éminent physicien mathématicien allemand, qui tous les deux, effectivement, vont s'arc-bouter sur ces questions des travaux de Carnot et des travaux de Joule. Alors, Thomson est un partisan de Sadi Carnot. Hein, c'est lui qui a redécouvert, via un ouvrage de Clapeyron, c'est pas facile hein, de suivre le travail de Carnot, il va découvrir l'œuvre de Carnot sur les réflexions de Carnot. Il prend connaissance, à l'occasion d'une présentation de Joule, hein, il prend connaissance également des travaux de Joule. Et Thomson est vraiment tiraillé, c'est-à-dire qu'il pense à la fois la chute du calorique entre deux températures et sa conservation, et d'autre part, il pense à l'équivalent mécanique de la chaleur, c'est-à-dire une adéquation entre chaleur et travail. Vous voyez que les deux ne peuvent pas être vrais en même temps, il faut faire un choix, ce n'est pas possible. Hein. Soit il y a ce qui se conserve, c'est l'ensemble travail plus chaleur, soit ce qui se conserve, c'est le calorique, mais on ne peut pas penser les deux en même temps. Donc là, ça ne va pas du tout. Thomson fait tout un tas de courriers à Joule, à Clausius. Il y a une correspondance qui rend compte vraiment d'un désarroi. Il est prêt à jeter l'éponge. Il dit là, il n'y a pas de solution, on ne va pas y arriver. Et puis Clausius, donc ce mathématicien allemand que je vous ai présenté tout à l'heure, finalement fait une synthèse dans un texte célèbre donc, qui commence par « à y regarder de plus près ». Il dit « les idées de Carnot et de Joule ne sont pas incompatibles ». Et tout simplement, il va expliquer, Clausius, que la machine transforme en travail la chaleur reçue. Alors, je vais peut-être vous le présenter comme ça, c'est peut-être plus clair. Donc, vous voyez que je suis là absolument dans le même dispositif que tout à l'heure, hein, avec le dispositif de Carnot. Donc, ce que va nous expliquer Clausius, c'est que la machine transforme finalement de la chaleur en travail, une certaine quantité de chaleur en travail, mais que, et là, on voit bien que Joule a raison, mais en même temps, ce que va nous montrer Clausius, eh bien, c'est que nécessairement, une partie de la chaleur va aller vers la source froide. Ce n'est pas une transformation intégrale de la chaleur en travail. Il est nécessaire qu'une partie de la chaleur passe de la source chaude à la source froide, et Carnot a raison. Vous voyez ? Solution simplissime et un peu déconcertante quand on voit les problèmes finalement qui étaient engagés sur cette question. Ainsi, la thermodynamique, science de l'énergie, se constitue. Elle est fondée sur deux lois fondamentales. L'une qui généralise la convertibilité des différentes formes d'énergie, donc les unes dans les autres, notamment le travail mécanique et la chaleur. Donc la première loi nous dit qu'il y a une équivalence entre quantité de travail et quantité de chaleur. L'autre, la seconde loi, nous dit, attention, seulement une partie de la chaleur va se transformer en travail l'autre partie est absolument inutilisable, en tout cas inutilisable pour produire du travail. Nous perdons inéluctablement de la chaleur. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le second principe de la thermodynamique. En pensant bien que les deux principes sont liés. Il faut tenir compte des deux principes pour prendre en compte les propriétés de l'énergie, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une dissipation de l'énergie. Clausius va progresser dans ses travaux et cette propriété-là, il va la mettre en forme, la formaliser et avancer le concept d'entropie pour définir cet élément-là, qui est absolument important. Donc la chaleur est perdue inéluctablement. Et cela n'a rien à voir avec l'idée d'un perfectionnement des machines. Carnot s'était bien posé la question, jusqu'où peut-on perfectionner les machines? Pourrait-on, par exemple, inventer un moteur qui, à partir d'une source de chaleur, permettrait d'obtenir indéfiniment du travail? La réponse est non. Au fur et à mesure qu'une machine thermique fonctionne, elle épuise un combustible. La thermodynamique, au moment de sa constitution, en quelque sorte, est en lien avec un problème au cœur de la révolution industrielle, qui est celui de l'exploitation des stocks des ressources naturelles. On y reviendra tout à l'heure. En résumé, l'énergie se transforme, se conserve et se dissipe, et la dissymétrie entre la chaleur et le travail indique que les phénomènes physiques sont orientés dans le temps de façon absolue et surtout irréversible. Pour les physiciens, c'est une situation de crise qui s'annonce. On va avoir effectivement beaucoup de difficultés. Il va falloir à ce moment-là penser les fondements de la physique tout entière. Alors William Thomson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a travaillé à la synthèse de la thermodynamique, et pour moi, mais ça c'est vraiment un avis tout à fait personnel, je pense que c'est la personne qui a le mieux compris cette association finalement entre ces deux principes de la thermodynamique et les différentes propriétés de l'énergie en associant le premier et le second principe. Bon, mais c'est un avis très personnel. Alors, il va imaginer, Thomson, finalement une situation pour laquelle toute l'énergie disponible, donc celle qui permet d'assurer le mouvement, celle qui permet d'assurer la vie, est dissipée. Vous voyez qu'à chaque fois que j'entre dans un processus naturel, il y a dissipation d'énergie. Cette énergie est dissipée, donc elle va devenir impropre à un usage quelconque. À un moment donné, l'univers va atteindre son maximum d'entropie. Eh bien, toute cette énergie dissipée, donc en chaleur, dont on ne peut plus rien faire, va stopper toutes les possibilités de mouvement, de vie, d'organisation. C'est la mort thermique de l'univers, la fin annoncée d'un monde programmé à la fin du 19e siècle. Vous voyez qu'avant 2012, déjà, c'était une vraie grosse problématique. Alors, cette fin du monde, évidemment, va inspirer. Elle va inspirer Camille Flammarion, que vous connaissez tous, auteur de la célèbre astronomie populaire. C'est un passionné par la vulgarisation de la science de son époque, la science positive. Il va publier un ouvrage qui s'appelle « La fin du monde ». Et dans cet ouvrage, c'est un peu un prétexte, ce livre raconte l'histoire de la rencontre entre la Terre et une comète au 25e siècle. Vous voyez, il voit loin Camille Flammarion. En fait, il se sert de cet ouvrage, de cette histoire, pour proposer un vaste tour d'horizon encyclopédique, finalement, sur des sujets touchant à l'apocalypse en général. D'ailleurs, le début de l'ouvrage commence par une conférence scientifique où on décrit, et assez bien d'ailleurs, on imagine, eh bien, toutes les théories décrivant la fin du monde. Fin du monde liée à la géologie, à la climatologie, à l'astronomie, enfin tout y passe et c'est plutôt bien fait. Et puis ça va continuer à inspirer, alors j'ai mis l'affiche du film là, La fin du monde, c'est tout à fait le titre choisi par Camille Flammarion, mais aussi par Abel Gance, qui va reprendre finalement le scénario proposé par Camille Flammarion. Là c'est plus tard, puisqu'on est en 1930 avec ce film d'Abel Gance. Donc nous voilà dans la prédiction de la fin du monde, et pourtant, la conservation de l'énergie est une super loi. C'est pas moi qui dis ça, c'est Michel Hulin, un physicien qui a beaucoup travaillé dans les années 1970. Une super loi, et je pense que c'est bien ça. Principe unificateur, au pouvoir explicatif et prédictif considérable, un outil à penser. l'énergie inspire et est diffusée dans les autres domaines disciplinaires. Et alors, j'en viens, si vous voulez, à mon premier exemple de diffusion du concept dans les ailleurs, puisque le principe va inspirer bien au-delà de son contexte d'émergence, qui est celui de la nature. Il va être transposé via le corps humain ou animal à la société humaine. Donc cette transposition est possible finalement car le corps humain, celui du travailleur notamment, peut être assimilé à une machine. Comme elle, le corps produit du mouvement. Comme elle, il ne crée pas de travail, mais il y est le lieu d'une transformation d'énergie. La machine humaine, comme la machine, transforme de la chaleur en mouvement. Ainsi, le principe de conservation de l'énergie et l'équivalent mécanique de la chaleur, hein, les deux fondamentaux dont je vous parlais tout à l'heure, peuvent être appliqués aux êtres organisés. Le travail des muscles étant le lieu de transformation de l'énergie, analogue au lieu de combustion des machines. Il existe pourtant une différence entre l'animal ou l'homme-machine et la machine. L'animal-machine n'atteint pas le rendement des machines. Il ne peut pas fonctionner indéfiniment puisqu'il s'épuise. Ainsi, c'est une métaphore, celle de l'homme-machine, du moteur humain, qui est en train de se construire. De la même façon que les machines et les processus industriels vont influencer le monde du travail, cette métaphore de l'homme-machine va influencer la façon de penser le travail dans la société du tournant des 19e et 20e siècles. Le corps devient l'endroit où la force de travail, je reprends l'expression qui était utilisée dans ce contexte-là, la force de travail est convertie en énergie pour faire tourner le moteur de l'industrie et une meilleure connaissance de ces machines et de leur rentabilité favoriserait grandement l'économie nationale. Alors c'est un physiologiste que vous connaissez, je pense, qui s'appelle Étienne Jules Marais, qui va travailler... un homme qui meurt en 1904, donc vous voyez, on est à la fin du 19e, début du 20e siècle. Étienne Jules Marais va pointer certaines implications sociales de cette doctrine. Donc je parle de la métaphore de l'homme-machine, du moteur humain. Marais est un physiologiste, il est également médecin, c'est un pionnier de la photographie et de l'image animée. Donc armé de sa métaphore de l'homme-machine, qui fonctionne et il le revendique selon le principe de conservation de l'énergie, dont il souligne l'aspect unificateur et universel, Marais souhaite évaluer le rendement des corps lorsqu'ils effectuent des mouvements. Donc il s'agit de décrire l'économie fonctionnelle des corps, c'est-à-dire indiquer les quantités d'énergie utilisées pour effectuer un mouvement et donc un travail. Il s'agit également de rendre compte de la façon dont le mouvement se déploie dans l'espace et dans le temps. Alors pour faire cela, il va inventer des instruments d'enregistrement graphique qui permettront d'obtenir des images des mouvements. Il s'agit de décomposer le plus finement possible ces mouvements pour découvrir les secrets de ce qu'il appelle la force de travail, c'est-à-dire la production de travail qu'un corps est capable de fournir. Alors il va travailler sur plusieurs choses, Étienne Jules Marais, mais notamment, il y a un problème qui se pose à l'époque et qui interroge beaucoup les spécialistes, il s'agit de l'allure du cheval, notamment le galop, dont on se demandait si, effectivement, lorsqu'un cheval était au galop, eh bien, à un moment donné, les quatre sabots du cheval quittaient le sol. Question intéressante, s'il en est. La vraie question, finalement, qui intéresse Marais, est celle du déploiement efficace des énergies corporelles. Et il dit qu'on emploie le cheval ou l'âne, le chameau ou le renne, toujours le même problème se pose. Tirer de l'animal le plus grand parti possible en lui épargnant le plus qu'on peut la fatigue et la souffrance. Donc il met au point un système d'enregistrement, donc l'odographe, qui va permettre de mesurer la vitesse de la marche humaine ou animale, ou la vitesse d'un chariot ou d'un wagon. Donc vous en avez là une représentation. Donc c'est un peu spécial, c'est un odographe qui est monté sur une grosse roue, j'aurais tendance à dire c'est le principe de la brouette, si vous voulez. Alors, l'odographe, finalement, c'est un cylindre qui va être recouvert d'un papier quadrillé, un cylindre qui est associé à une horloge, donc qui va avoir un mouvement de rotation uniforme, si vous voulez. Donc, le cylindre tourne. Et sur le cylindre, il y a un stylet qui va pouvoir laisser une trace. Le stylet, lui, par contre, est directement en fonction, disons, de la vitesse du déplacement là, de l'homme en train d'avancer avec son odographe. Vous voyez le principe, hein ? C'est-à-dire que de la combinaison de ces deux mouvements, hein, le mouvement du cylindre et le mouvement du style, eh bien, on va pouvoir accéder finalement à l'expression complète du mouvement. Il est en contact, Étienne Jules Marais, avec un photographe anglo-américain très connu à l'époque, qui s'appelle Edward Muybridge. Et Marais va découvrir les photos de celui-ci. Je suppose que vous connaissez cette iconographie, ces représentations. Il est très impressionné, Marais, quand il découvre les photos de Muybridge. Et il souhaite entrer en contact avec lui. Et il le fait à l'occasion d'une lettre qu'il adresse à une revue qui s'appelle La Nature, où il lui fait d'ailleurs une suggestion. Donc il suggère à Muybridge, à partir de ses photos, pour donner finalement l'illusion du mouvement, de découper les photos et de les mettre sur le petit dispositif là, que vous avez sur la droite, qui s'appelle un zéotrope. Qui est un dérivé d'un jeu d'enfant. Alors le modèle là, que j'ai choisi de vous présenter, mais j'aurais pu en choisir d'autres. Hein. Finalement, c'est un modèle. Vous voyez, à l'intérieur du zéotrope, on va positionner les photos. Il y a un jeu de miroir. Hein. Et quand l'ensemble est mis en mouvement, eh bien, on voit le cheval au galop. Et on a la réponse à la question que je posais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que le cheval, quand il est au galop, à un moment donné, les quatre sabots sont-ils en l'air? Et la réponse est oui, définitivement. On a la réponse à cette question absolument cruciale. Donc vous voyez le principe, donc il y a un contact qui s'établit à ce moment-là entre Marais et puis Edward Muybridge. Il y a d'autres dispositifs de zéotrope, on en trouve avec des petites fentes, et à ce moment-là, quand on place son œil dans la fente, eh bien, on voit effectivement le mouvement du cheval. Il y a tout un tas d'imagerie comme ça avec des oiseaux, le vol de l'oiseau, il y a beaucoup de choses du travail de Marais et de Muybridge aussi. Donc Marais va continuer dans cette orientation avec ce qu'il appelle la chronophotographie. C'est un petit peu différent par rapport au système qui est utilisé par Muybridge, qui désigne une technique photographique permettant de prendre une succession de photos à intervalles de temps réguliers afin d'étudier le mouvement en décomposé de l'objet qui est photographié. Alors la chronophotographie permettait, grâce à une approche rationnelle de la conservation de l'énergie, de calculer le travail dans les différents mouvements, de déterminer les mouvements des corps qui étaient les mouvements les plus efficaces. Il fallait rendre plus efficace l'activité des moteurs animés. En bref, la chronophotographie, telle qu'elle est pensée par Marais, permettait une rationalisation du mouvement des corps, et on pourrait dire constitue une économie, mais alors dans le sens l'art de gérer, si vous voulez, une économie de l'énergie. Il ne s'agit pas d'en dépenser moins, il s'agit de la gérer, si vous voulez. Donc, c'est en ce sens-là que je dis économie de l'énergie. Donc, la première application de la chronophotographie va être conduite en 1894, donc tout à fait à la fin du 19e siècle, par un ingénieur qui s'appelle Charles Frémont, et qui, lui, s'intéressait à la manière d'obtenir un travail optimum avec des outils spécifiques. Vous allez voir, ça, c'est assez impressionnant. Alors, j'ai choisi de vous montrer cette photo. Donc, cette photo, finalement, montre les positions qui se produisent pendant un cycle de martelage. Donc, c'est un forgeron qui est en train de procéder à un martelage dans un mouvement très ample. Et le corps du forgeron apparaît comme étant flou. Seules émergent les positions du marteau et des mains. Photographie extraordinaire qui concentre la force de travail qui est impliquée dans la tâche à effectuer, alors que le corps du forgeron est complètement ignoré. Alors on pense tout de suite à l'ingénieur américain Taylor, dont les idées vont arriver en Europe un petit peu plus tard, par rapport à la période qu'on est en train de regarder, mais dont le but était la maximisation des productions sans tenir compte du coût physiologique pour le travailleur. Donc l'ingénieur qu'il était considérait le corps comme une machine travaillant efficacement ou pas. Il s'intéressait pas au moteur humain, à la façon dont l'énergie et la fatigue pouvaient être calculées au mieux sur le long terme. Avec la chronophotographie, il était possible d'atteindre une meilleure économie, dans le sens meilleure gestion toujours, hein, par un entraînement qui pouvait être mis au point par l'étude de chaque processus. C'est-à-dire qu'une étude détaillée du mouvement permettait, devrait permettre en tout cas, choisir le mouvement le plus adapté, c'est-à-dire celui qui permettait d'obtenir le plus d'efforts avec le moins d'énergie engagée, en quelque sorte le moins de fatigue possible. Hein, c'est ça l'idée. Donc Marais note la différence entre machine et moteur humain. Même le mouvement le plus efficace, hein, déterminé par la chronophotographie, ne peut vaincre les résistances du corps, la déperdition, la fatigue, c'est l'entropie, qui l'emporte sur le fait de maximaliser l'effort. C'est de cette juxtaposition de l'économie, donc dans le terme de l'art de gérer, hein, de l'économie de l'énergie et de sa négation, la fatigue, que va naître une science du travail qui va se développer en Europe à partir de ces années-là. Alors dans cet exemple, qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie ? Énergie concept ou énergie métaphore ? Et là, très clairement, c'est bien la métaphore qui est convoquée. Mais une métaphore qui se construit élément par élément en lien avec les machines et les lois qui les gouvernent. Finalement, et en reprenant les mots d'Hanson Rabinbach, qui est l'auteur d'un ouvrage que je vous engage à lire, c'est une pure merveille, hein, sur le 19e siècle et la société du 19e siècle, qui s'appelle « Le moteur humain », il dit, Rabinbach, on comprend mieux le statut que l'énergie acquiert, notamment dans les travaux de Marais. Voilà ce qu'il dit. Si la mécanique avait fourni aux philosophes du XVIIe siècle le lien entre l'homme et le cosmos, le concept d'énergie réunissait réellement l'ordre organique et l'ordre non organique des choses. Et là, c'est moi qui rajoute, indiquant par là même le pouvoir unificateur de ce concept-là. Pour en finir avec les travaux de Marais, je veux quand même rajouter que, indépendamment de ces travaux-là, pour représenter l'énergie du corps en action, Marais va produire avec ses photos, ses chronophotographies, une première iconographie de l'énergétique. Et cette iconographie de l'énergétique ne sera pas sans influence. On y reviendra. Alors je vous en donne là une représentation, c'est l'homme qui marche. Donc là, il avait photographié un homme habillé tout en noir avec des bandes blanches. Vous voyez qu'il y a une visée scientifique, mais il y a très clairement, et c'est très revendiqué dans le travail de Marais, une visée esthétique. Bon, je n'ai pas pu m'empêcher, parce que je l'aime beaucoup aussi, dans la décomposition du mouvement, la chute du chat. Je trouve que c'est toujours quelque chose d'intéressant à réexaminer. Donc vous voyez une décomposition assez nette du mouvement. Bon, il n'y a pas d'efficacité sur la chute du chat, sans doute. Ce n'est pas ça qui est visé là. C'est quand même un travail là, plus, disons, plus esthétique. Alors j'en viens maintenant à mon deuxième exemple. On change complètement de domaine avec cet ouvrage, donc ce deuxième exemple qui s'ouvre avec un ouvrage qui est publié en 1974, vous voyez qu'on change de période. C'est l'ouvrage d'un économiste mathématicien roumain qui s'appelle Nicolae Georgescu Roggen et dont le titre évocateur, hein, je vous rappelle, 1974. Demain, la décroissance. Parfait. En première de couverture, donc on voit l'image d'une clepsydre ou d'un sablier, comme vous voulez, qui est un instrument destiné à garder le temps. Mais alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais la clepsydre en bas est cassée, montrant ainsi que le temps s'écoule, mais sans doute de manière irréversible. Et c'est bien cette idée de temps irréversible qui est au cœur de la pensée de Georgescu Roggen. Donc Georgescu Roggen critique le modèle économique néoclassique, et il dit très clairement, on s'est trompé sur les fondements, on a oublié les lois de la thermodynamique, l'irréversibilité des processus thermodynamiques, ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Georgescu Roggen rappelle que le principe d'entropie, dont on a parlé tout à l'heure, a donné lieu notamment en Allemagne à une traduction, mais c'est arrivé dans l'Europe, enfin, ça traversé complètement les sciences, et c'est complètement d'actualité, mais en tout cas c'est la traduction qui l'intéresse, la traduction de ce principe, qui relève de la mécanique statistique. Donc cette approche statistique repose sur le fait que la matière est constituée d'un nombre très important d'atomes. À la louche, on pourrait dire qu'un gramme de matière, c'est environ 10 puissance 23 atomes. François n'écoute pas ce que je dis, mais à peu près quand même, c'est un ordre de grandeur. Et qu'il est possible, et qu'il est impossible d'appliquer à chacun de ces atomes les lois de la mécanique de Newton, alors que chacun de ces atomes rend compte, relève de la mécanique newtonienne, en termes de position, vitesse, trajectoire, etc. Pour pallier à cette difficulté, et il s'agissait bien de donner une description finalement du second principe, eh bien on va appliquer la statistique qui permet de traiter une population importante. On va travailler là sur des valeurs moyennes. Donc effectivement, il va y avoir une traduction en quelque sorte du second principe. Donc on va dire finalement le second principe, c'est l'idée selon laquelle un système tend spontanément vers l'état le plus stable, c'est-à-dire l'état réalisé par le plus grand nombre de possibles, si vous voulez, on va dire un nombre d'états microscopiques. Ce qui va résulter de cela, c'est que l'entropie va devenir, en quelque sorte, va être traduite dans le cadre d'une grandeur purement probabiliste, mathématique, très efficace, mais un résultat qui va donner lieu à des acceptions assez différentes, et surtout un résultat dont on va faire un petit peu ce qu'on veut. Alors pas chez les mathématiciens, mais on va trouver des interprétations chez les économistes. Et en effet, cette interprétation du second principe est reprise dans un domaine, et c'est Georgescu Rogan qui parle, qui avait beaucoup de succès à l'époque. Alors succès de mode, dira-t-il, c'est la théorie mathématique de l'information. L'information était considérée comme étant une entropie négative, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, eh bien, il va falloir, par exemple, expliquer la présence de l'ordre à l'intérieur des êtres vivants. Donc vous voyez qu'on s'oppose à l'idée de dissipation dont je parlais tout à l'heure, synonyme de force de cohésion, traduction physique de l'information. Et finalement, cette négative entropie va être contractée par un physicien mathématicien français exilé aux États-Unis qui s'appelle Léon Briouin, et on va utiliser le terme de négantropie. Négantropie, dit Georgescu Rogan, voilà bien un oxymore, hein. Il y a contradiction entre les termes. Pour lui, la théorie mathématique de l'information est un avatar de la mécanique statistique, c'est-à-dire une interprétation absolument inacceptable. Cela étant, cette théorie va remporter un large succès chez les économistes, qui indiquent qu'un jour, on pourra remplacer les ressources naturelles par de l'information, c'est-à-dire par du capital technologique. Tout à fait contraire, selon Georgescu Rogan, à une saine application de la thermodynamique, au processus réel. Aucun modèle ne permettra de contrecarrer, de violer les principes de la thermodynamique. Et Georgescu Rogan va revendiquer le fait de développer une économie moins abstraite, moins centrée sur les produits financiers et banquiers. Il ramène l'économie sur Terre. Alors sur Terre, d'abord avec un petit t. Je reprends ici les propos de Jacques Greenwald, qui est un philosophe de l'université de Genève, qui a bien connu Georgescu Rogan et qui interprète sa pensée. Il dit « L'économie doit s'enraciner dans la biologie humaine et répondre à des besoins de base, l'eau, la nourriture, le transport. » Mais l'économie doit revenir sur Terre aussi avec un grand T, c'est-à-dire la planète dans laquelle nous habitons, sur laquelle nous habitons, est une planète tout à fait singulière dans le cosmos. Il n'y a pas d'autre qui soit habitable, en tout cas dans ce qu'on sait aujourd'hui. Et les lois de la thermodynamique s'appliquent également à la planète tout entière. Alors Georgescu Rogan connaît bien les travaux de Sadi Carnot. Alors si on fait un petit compte, les travaux de Sadi Carnot, on est en 1974, au moment de la publication là, de l'ouvrage de Georgescu Rogan. C'est le 150e anniversaire des fameuses réflexions de Carnot dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ça, c'est des petits trucs d'historien des sciences, faut bien le reconnaître. Toujours est-il que Georgescu Rogan admire ce héros fondateur incompris qui est Carnot, et il rappelle qu'il est impossible d'avoir un moteur perpétuel qui, avec une source de chaleur, permettrait d'obtenir indéfiniment du travail. Et en reprenant les travaux de la thermodynamique, Georges Kouroghen souligne la consommation nécessaire d'un combustible, quels que soient les cas de figure. Le problème, selon lui, est bien celui de l'exploitation irrévocable des ressources énergétiques dont les futures générations ne pourront pas bénéficier. C'est la déplétion de la ressource, pour reprendre un terme utilisé par les pétroliers. Selon Georges Kouroghen, la thermodynamique permet de comprendre que les ressources du sous-sol, qui ne se renouvellent pas à l'échelle humaine, par exemple les hydrocarbures solides, le charbon liquide, le pétrole gazeux, le gaz naturel, correspondent à de l'énergie solaire emmagasinée il y a des dizaines, des centaines de millions d'années, stockée dans des bassins sédimentaires, à la suite de processus géologiques à différentes profondeurs et donc plus ou moins bien accessible, plus ou moins bien rentable. Et plus on exploite, plus ça devient difficilement accessible et moins ça devient rentable. Les ressources du sous-sol s'épuisent irréversiblement. C'est moins rentable, de plus en plus cher. Et Georges Kouroghen nous rappelle qu'un jour, pour exploiter un litre de pétrole, il en faudra deux. Un jour proche, on n'aura plus accès à un pétrole bon marché. Cette mise en garde de Georges Kouroghen, formulée, je vous rappelle, en 1974, et qui engage à penser la décroissance, c'est un des premiers à formuler cette expression, dans le sens, il est nécessaire, il est indispensable de se recentrer sur les besoins fondamentaux, pour fondement les principes de la thermodynamique que l'on ne saurait bafouer, même si certains économistes, on l'a vu, semblent faire des usages erroné, inutile que j'insiste davantage aujourd'hui sur la valeur, sur la résonance de cette mise en garde de Georges Kouroghen. J'en viens maintenant à mon troisième exemple. Et l'énergie donne à penser dans des domaines éloignés de son contexte d'émergence. Pour cela, alors je viens dans l'histoire un peu à ma guise, je le reconnais. Mais revenons au tournant des 19e et 20e siècles, moment pour lequel la nature du temps et de l'espace fait débat dans les sciences, mais également dans les milieux intellectuels et dans la presse populaire. Pour les sciences, évidemment, on pense à la figure d'Einstein, et à ces textes révolutionnaires de 1905, l'un d'entre eux, par exemple, « Électrodynamique des corps en mouvement » est le texte fondateur de la relativité. Et dans une annexe à ce texte, c'est dans une annexe à ce texte qu'il présente l'équivalence entre la masse et l'énergie, mettant ainsi en évidence la formule la plus connue, mais sans doute la plus mystérieuse de toute l'histoire des sciences. Vous savez, le fameux E égale MC2 qui, en fait, s'exprime en termes de variation. C'est à une variation de masse, une petite variation de masse correspond une variation énorme d'énergie. Alors, les implications sont extraordinaires et multiples. Je ne les citerai pas tous, pas toutes, mais on peut peut-être s'arrêter sur quelques-unes d'entre elles. La première, c'est qu'il existe en physique une vitesse limite que l'on ne peut dépasser, c'est la vitesse de la lumière, c'est une constante. La seconde, c'est que le temps n'est plus, contrairement à ce que croyait Newton, un absolu de l'univers. Il dépend du référentiel et donc de l'espace dans lequel on se place. Il n'existe pas un temps, mais des temps. Espace et temps sont fusionnés. À l'espace à trois dimensions doit donc être substitué un continuum d'espace-temps à quatre dimensions, trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Et la constante vitesse de la lumière, là, qu'on appelle C en général, apparaît alors comme un vecteur, une sorte de vecteur de conversion qui permet de transformer des distances en intervalles de temps. C'est en quelque sorte une constante structurale de l'espace-temps qui détermine la géométrie de ce nouvel espace à quatre dimensions. Einstein est un scientifique, c'est un philosophe, mais il est également créateur, dans le sens où la science elle-même est création. Et sa vision du monde inspirera de nombreux créateurs bien au-delà des sciences. Alors, vous savez sans doute que Montpellier accueille, pour trois uniques représentations en France, l'opéra Einstein on the Beach. Et évidemment, la question que je me suis posée tout de suite, c'est la question de l'héritage d'Einstein, de sa vision du monde en termes d'espace, de temps et d'énergie. Le metteur en scène d'Einstein on the Beach, qui est Robert Wilson, précise qu'il s'agit d'un opéra einsteinien et non d'un opéra sur Einstein. C'est le sujet de la relativisation de notre perception de l'espace et du temps et de leurs rapports qui sont interrogés, alors que sont intégrés de façon très libre des éléments scientifiques, vitesse de la lumière, mesure du temps, etc. etc. La spécificité de cet opéra est qu'il ne comporte pas de signification littéraire. Il n'existe pas de fil narratif. C'est un espèce d'arrangement architectural qui se structure à partir de collages d'éléments scéniques, visuels ou auditifs. Solo et discontinuité sonore se succèdent ou s'entremêlent, constituant ainsi une sorte de présentation mécanique à l'esthétique froide. La volonté revendiquée de Robert Wilson, c'est d'éliminer l'émotion apparente. On va même parler d'une beauté mathématique dans cet opéra. Les personnages et la musique sont les rythmes qui déterminent le formalisme de la pièce et l'émotion ressentie est quelque chose de profondément intérieur. Ainsi, en reprenant les mots de Guy Scarpetta, c'est un romancier essayiste, un critique d'art qui sera présent à Montpellier au moment de la donnée de cet événement un peu exceptionnel. Voilà ce que dit Guy Scarpetta. L'espace change de signification selon le point de vue convoqué. La façon dont la danse et la musique sont produites dans le temps et la façon dont, à leur tour, elles produisent le temps et définissent l'espace. Dans Einstein on the Beach, Wilson développe des pratiques minimalistes basées sur le ralentissement du mouvement comme base de son langage théâtral. Des mouvements très minutieux. Je pense nécessairement à Étienne Jules Marais, que je vous ai présenté tout à l'heure. Des mouvements très minutieux, minuscules et ralentis par les danseurs, qui doivent mettre en œuvre, et c'est une consigne qu'ils reçoivent, une quantité minimale d'énergie. L'énergie du danseur apparaît comme une volonté intérieure à l'origine du mouvement, alors que le corps participe à la construction de l'espace. Cette danse vise à utiliser le moins de force musculaire, avec une conscience particulière du corps pour lequel on laisse agir le poids. Le danseur ainsi semble porté et traversé par son propre mouvement, comme si l'impulsion venait de l'extérieur. En convoquant Einstein, Wilson souligne la question d'une autre présence au monde, en lien avec l'espace, le temps et l'énergie. L'énergie ici apparaît, vous l'avez compris, comme une métaphore. Donc Einstein on the Beach donc sera donné à Montpellier, avec l'Opéra National de Montpellier dirigé par Jean-Paul Scarpita en collaboration avec Montpellier Danse. Robert Wilson est le metteur en scène, Philip Glass le compositeur et Lucinda Child la chorégraphe. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il s'agissait d'un remontage finalement d'un opéra qui avait été donné en 1976 à Avignon, pour lequel finalement c'était Andy de Grotte qui était le chorégraphe et Lucinda Child était à ce moment-là une interprète. Donc c'est tout à fait particulier. Sur la photo là, que vous voyez, donc c'est une photo de 1976, la pièce dans sa première mouture. Donc on a Cheryl Sutton sur la gauche, donc c'est une danseuse noire avec un pantalon blanc, alors que Lucinda Child est une danseuse blanche avec un pantalon noir. Là, une autre représentation d'Einstein on the Beach. Donc en conclusion, je dirais qu'on retiendra que l'énergie devient concept lorsque le vocable entre dans le glossaire de la physique, c'est-à-dire lorsqu'il s'exprime sous la forme d'un principe de conservation, pour lequel, finalement, donc l'énergie se conserve, se transforme et se dissipe. Quand on parle de la dissipation, on est alors dans le second principe, l'entropie, dont je vous ai également parlé. L'énergie n'est pas une substance, les ressources d'énergie sont des substances. Peuvent l'être, en tout cas. L'énergie est un nombre qui mesure la capacité d'un système à produire des changements. Donc si la mobilisation du concept dans les trois domaines que j'ai présentés ici est systématiquement, c'est pour ça que j'ai fait ces choix, est systématiquement liée au contexte scientifique, ce lien est toutefois différent dans les trois cas. Avec les travaux d'Étienne Jules Marais, l'analogie entre machine et moteur humain repose directement sur les deux principes fondateurs de la thermodynamique, en guise de légitimité scientifique, si vous voulez, mais au risque, sans doute, certainement même, d'une sursimplification du modèle censé fonder l'économie du travail, sorte de construction idéologique. Le travail de Georges Kouroghen met en évidence un autre type de travers à l'usage des principes de la thermodynamique. C'est selon lui une interprétation fantaisiste, en tout cas erronée du second principe, qui conduit à penser que les connaissances technologiques permettront à pallier le problème des ressources énergétiques, l'usage métaphorique du concept conduisant alors à des problèmes bien réels. Avec Einstein on the Beach, l'usage de l'énergie et de manière plus générale les révolutions engagées dans les sciences du début du XXe siècle permettent notamment de sortir de ce qu'on pourrait appeler du temps des horloges. Pensez à l'horloge de Métropolis de Fritz Lang qui ponctue le temps du travail, inéluctablement. Et finalement, ça permet de constituer une sorte de révolution métaphysique et intérieure qui inspire et libère pour penser autrement. Je vous remercie de votre attention.
L'Agora des savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.